Maintenant, merci de vous être rendu disponible pour ce conseil municipal qui sera l'avant-dernier de l'année. Donc nous avons les excuses de Pierre Achard qui donne pouvoir à Antoine Di Paolo. Je mets mon téléphone en mode avion, s'il veut bien. Voilà, c'est fait. Et Isabelle Garbet qui donne pouvoir à Mireille Papin. Donc merci de vous être rendu disponible. On a un ordre du jour qui est quand même assez conséquent. Mireille Papin, voulez-vous être la secrétaire de la séance? Très bien, voilà, elle veut bien. D'ailleurs, je crois bien que tu as encore le conseil précédent à signer sur ton bureau. Tu l'as peut-être fait tout à l'heure. Bon, voilà. Donc on va commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal de la dernière fois qui était très, très, très important puisqu'il a duré un quart d'heure. Mais il fallait le faire quand même, hein, c'était une obligation. Vous l'avez lu, le compte-rendu? Donc c'était une problématique, vous savez, de parcelles au niveau cadastral. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, le procès-verbal de la dernière réunion est adopté. Je vous en remercie. Premier point, il s'agit donc de l'état des décisions du maire. Donc vous l'avez reçu. C'est toutes les décisions que je prends sur votre délégation, donc je vous en restitue la teneur à chaque conseil. Ce qu'il faut retenir dans ces délibérations, c'est surtout le recours à l'emprunt pour 600 000 euros auprès de la Caisse du Crédit Mutuel. C'était prévu au niveau budgétaire. On a mis en concurrence un certain nombre de réseaux bancaires. Et comme chaque année depuis maintenant 3 ans, c'est le Crédit Mutuel qui est le mieux placé. Ce sont des emprunts à taux fixe. Et là, je crois qu'on doit être à 3,5%. Donc à hauteur de 600 000 euros. Alors je vous rappelle que les emprunts, on les appelle au niveau budgétaire, mais ça ne veut pas dire qu'on les consomme immédiatement au niveau financier. Ils sont budgétés, on a à peu près 6 à 8 mois pour pouvoir les tirer, donc on les reporte le plus longtemps possible tant qu'on a de la trésorerie. Donc après vous avez les autres décisions. Est-ce que ça appelle des commentaires de votre part, ces décisions? Il y a des précisions à me demander. Bon. Donc on va passer, si vous voulez bien, au point 2. Et je vais passer la parole à Christine Gezins, qui va nous parler de la convention avec l'École municipale des arts et lettres.
Oui, bonsoir. Donc comme chaque année, nous renouvelons la convention entre l'École municipale des arts et la ville de Lettres, pardon. Les engagements des parties, je vous rappelle, la commune de Saint-Priest-en-Jarez s'engage à donner priorité aux résidents de Lettras dans le cadre des demandes d'inscription à l'École des arts extérieurs, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez, et ce, dans la limite des places disponibles. La ville de Lettras s'engage, en contrepartie, à participer aux frais de remboursement et de gestion de l'École des arts à hauteur de 9 000 euros pour l'année 2025-2026. J'en profite en même temps pour vous rappeler, vous êtes peut-être pas. Il y a 313 élèves de l'École municipale des arts qui sont inscrits cette année. Nous en avons 12 en hip-hop, 116 en jazz, moderne jazz et danse, 45 en théâtre, ça a beaucoup augmenté, 15 en dessin et 157 en musique. La musique, c'est le même effectif que l'an dernier. Et cette année, nous avons 28 stratiens sont à l'École municipale des arts. Donc l'an dernier, ils étaient 24. Nous en avons 28 cette année. Voilà. Le conseil municipal a approuvé une convention de partenariat financier avec la ville de Lettras afin d'intégrer des élèves de cette commune souhaitant pratiquer les disciplines artistiques dispensées au sein de notre École municipale des arts. Il convient donc aujourd'hui de renouveler cette convention avec la ville de Lettras jusqu'au 31 août et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. La durée de la convention, de toute façon, c'est toujours pour un an, jusqu'au 31 août de l'année scolaire, en fait. Voilà.
Des questions par rapport à cette convention? Bon, on l'a reconduit année après année. Les petits stratiens sont bien considérés, puisque on les prend, et puis la mairie de Lettras les indemnise en complément. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant pour eux. Des questions? Donc qui est contre cette convention reconduite? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on valide la reconduction de la convention. Je vous remercie. Le point suivant, c'est Claude Bruneau qui va nous le présenter. C'est là aussi la reconduction de la convention de mise à disposition du parking du CDAT.
Si, c'est bon. Bonsoir. Je vous rappelle un peu le cadre. Le besoin en stationnement pour le CDAT concerne exclusivement la période du repas de midi, en gros de 11h45 à 14h30. Et tout le reste du temps, ce parking est donc mis à disposition de la municipalité, moyennant finance, bien entendu. Donc, afin d'éviter également un stationnement de longue durée, je vous rappelle que le portail est fermé à 22h et que le CDAT a remis deux clés à la commune et une clé pour forcer l'éclairage. Voilà. Alors, par délibération du 13 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition par le CDAT, c'est-à-dire le Centre départemental d'aide par le travail, à la commune de Saint-Priest-en-Jarret, d'un parking situé au 34 rue du 8 mai 1945, comportant 39 places de stationnement, dont une PMR. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2025 et il convient donc de la renouveler. Je vous rappelle que c'est pour le prix de 1 000 euros par mois et que c'est donc une convention qui est renouvelée pour 4 années. Il nous est donc demandé de bien vouloir approuver cette nouvelle convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Alors, deux éléments. D'abord, la fermeture à 22h, elle est prévue, mais en fait, il y a une clause qui précise qu'on peut déroger jusqu'à minuit. Et en fait, c'est ouvert jusqu'à minuit. Hein. Deuxième élément, on s'est interrogé parce que le CDAT, comme toutes les structures, je dirais, collectives, hein, collectivités territoriales ou qui en sont issues, s'est interrogé sur une augmentation sensible de ce loyer de 1 000 euros par mois, puisqu'il voulait l'augmenter très sensiblement. Et nous, on a dit, si c'est comme ça, et ça tombe bien parce qu'on y réfléchit, on résilie la convention. Donc, s'ils augmentent, on résilie, c'est pas compliqué. Parce qu'on ne pouvait pas non plus se permettre d'avoir trop... Alors, on gère déjà avec eux l'augmentation des tarifs de la cantine, puisque ce sont eux qui gèrent. Donc là, c'était quand même difficile, sachant que dans leur calcul, à l'époque, le directeur avait fait un calcul très simple. Qu'est-ce que ça coûte le parking? En combien d'années on l'a amorti? Combien il faut le louer par mois pour couvrir cet amortissement? En gros, c'était ça. Donc, l'investissement au départ, il a été fait. Les travaux ont été payés, donc il n'y a pas d'actualisation liée à l'évolution de l'inflation ou des prix. Donc, je crois qu'ils ont tout de suite compris que, de toute façon, on était prêt à résilier la convention. Donc, pour eux, c'était un manque à gagner de 12 000 euros par an. Donc, ils ont accepté qu'on reconduise sur les mêmes bases. Entre nous, c'est quand même un parking qui nous rend service, compte tenu des activités qui se développent au Pôle Enfant Jeunesse et à la MDA, y compris quand on a des réunions ou pendant les vacances. Hein, ça permet aux parents de stationner pour déposer leurs enfants ou aller les chercher. Et puis, quand il y a des manifestations style élection, le parking est ouvert. Mais de toute façon, historiquement, quand il y avait des élections, le CDAT nous mettait toujours à disposition leur parking. Donc, aujourd'hui, on vous propose de reconduire la convention sur les mêmes bases, donc 1 000 euros par mois, sur une reconduction de 4 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc nous reconduisons la convention avec le CDAT à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, c'est Mireille Papin qui va vous le présenter. Alors il y a deux options, ou elle fait court ou elle fait très long. Je pense qu'elle a plutôt envie de faire court parce qu'il y a deux dossiers qui suivent qui sont à peu près dans la même philosophie qui est celle de la gestion du logement social. Donc je passe tout de suite la parole à Mireille Papin.
Bonsoir. Donc c'est le projet de plan partenarial de la gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, le PPGDLSID. Donc c'est un plan qui a été travaillé en 2019, qui est couré jusqu'à fin 2025, et qui va donc être renouvelé pour la période 2026-2031. Donc c'est un plan qui reprend tous les axes qui tournent autour de la politique du logement, de la demande au classement des quartiers prioritaires, aux situations particulières d'ALO, c'est-à-dire les demandes qui datent de longtemps, les expulsions, les situations très défavorisées. La seule chose que je peux signaler, c'est que ce qu'il y a de relativement nouveau et récent, c'est la cotation. C'est-à-dire qu'il y a un système de points qui est accordé selon la situation du demandeur, et particulièrement pour les zones tendues. Alors chez nous, les zones tendues, c'est quoi ? C'est tout ce qui est nouveaux logements, les nouveaux immeubles, et puis peut-être des immeubles particulièrement demandés. Alors je ne vous donnerai pas cette cotation. Donc arrivé à son terme, le plan partenarial donc, a fait l'objet d'un bilan, le bilan de ces années 2019-2025. Et un nouveau plan, à partir de ce bilan, a été élaboré pour la période 2026-2031. Voilà. Cette élaboration a été conduite en collaboration avec l'État, les communes, les organismes de logements sociaux, les associations œuvrant pour le maintien et l'accès au logement. Ce plan, donc, comme on l'a déjà dit, comporte le bilan, le mode d'organisation pour la gestion de la demande et l'information aux demandeurs qui s'inscrit dans la continuité du précédent. Voilà. Donc, ce plan a été présenté à la conférence intercommunale du logement le 19 septembre, qui a émis un avis favorable. Et conformément à l'article L441-2-8 du CCH, Saint-Étienne Métropole soumet à la commune le projet du nouveau plan annexé au présent rapport. Pour information, l'avis des communes est réputé favorable sans retour d'avis de sa part dans les 2 mois suivant l'envoi. Voilà, la commune de Saint-Priest-en-Jarret maintient sa participation à cette organisation pour assurer la mission de guichet de niveau 1, puisqu'on est guichet niveau 1, c'est-à-dire qu'on accueille le public, on renseigne, on a accès au numéro unique qui permet de voir la situation du demandeur, mais on ne peut pas intervenir dessus. Donc le conseil municipal est invité à approuver le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs 2026-2031. Voilà. Confirmer la participation de la commune comme lieu d'accueil et d'information dans le cadre du PPGDLSID en qualité de guichet 1. Oui, j'ai lu.
Alors, il y a quand même une évolution dans le temps, parce qu'avant, on se contentait, si je puis dire, d'accompagner les demandeurs dans la constitution de leur dossier, mais on n'allait pas plus loin. On parlera après des commissions. Là, on est guichet 1, c'est-à-dire qu'on a quand même accès à un certain nombre d'informations, on est reconnu comme tel. Ça nous permet quand même de mieux appréhender la situation des demandeurs, et puis, je dirais presque, leur historique. Il y a des gens qui viennent nous trouver en disant, voilà, je voudrais un logement social, mais on ignorait avant, par exemple, qu'ils en avaient refusé plusieurs. Parce que là aussi, c'est un peu comme partout, les demandeurs de logement social sont de plus en plus exigeants. L'idéal, ça serait pour eux d'avoir une petite maison avec un jardin. Alors, ce n'est pas du tout humoristique ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de gens qui demandent ça depuis la fin de la crise sanitaire, c'est ce qu'ils souhaitent. Ou alors, des appartements avec des grands balcons. Donc, le fait d'être guichet 1, c'est quand même une reconnaissance. C'est un outil, ça demande quand même de l'investissement. Je vous rappelle qu'on a un agent à l'accueil qui est spécialisé dans le logement social et qui reçoit les demandeurs potentiellement les vendredis après-midi. Donc voilà, c'est quand même aussi un investissement, sachant que les guichets 2 qui, là, bâtissent et instruisent les dossiers, ce sont les bailleurs sociaux, pour l'essentiel. Hein. Voilà. Donc voilà, donc on vous demande de valider cette convention, ce projet, sachant qu'il a été validé par toutes les instances décisionnaires. Et comme on est partie prenante, donc voilà, on vous propose de valider cette démarche. Des questions par rapport à ça ? C'est relativement complexe, mais c'est quand même bon, satisfaisant, je dirais, de pouvoir répondre à des besoins en termes de satisfaction des habitants qu'on peut rencontrer.
Oui, puis surtout, ça aborde tous les problèmes autour du logement social.
C'est ça. Des questions ? Donc je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide ce projet de plan partenarial à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, c'est encore Mireille qui va nous en parler. Et là, ça concerne les commissions d'attribution, plutôt la convention intercommunale d'attribution des logements sociaux.
Alors, la convention intercommunale d'attribution constitue le document de référence pour les partenaires contribuant à améliorer l'accès au logement des demandeurs de logements sociaux dans une logique d'équilibre social dans le parc social et ce, aux différentes échelles territoriales. Elle répond pleinement aux orientations du programme local de l'habitat en intégrant la nouvelle géographie prioritaire du contrat de ville métropolitain, engagement quartier 2030. Elle prend en compte le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. C'est vrai qu'à l'intérieur de tous ces plans, l'idée, c'est la mixité sociale et c'est répondre aux problèmes sociaux de la ville ou de l'environnement. Donc, arrivé à terme, Saint-Étienne Métropole a établi un bilan et procédé à l'élaboration d'un projet d'une nouvelle CIA pour la période 2026-2031. Donc, ça suit vraiment le plan. Ce travail est le résultat d'une démarche partenariale qui a associé l'État, les réservataires, dont les communes, le département, les bailleurs sociaux et Aura HLM, qui est le lien de tous les bailleurs sociaux, Action Logement, la CAF, et les associations œuvrant dans les champs de l'accès et le maintien au logement, mais également de l'information au logement. Donc les buts, c'est porter une attention particulière aux quartiers de la politique de la ville avec des objectifs d'attribution fixés pour et hors des quartiers prioritaires du contrat de ville selon les ressources des ménages, les quartiers prioritaires étant les quartiers défavorisés. Et on doit, il y a un pourcentage de ces quartiers défavorisés où on doit offrir du peuplement dans des quartiers beaucoup plus favorisés pour améliorer la mixité. Donc favoriser la mise en œuvre du droit au logement dans une logique d'équilibre territorial avec des objectifs d'attribution pour les publics prioritaires, proposer des modalités de relogement des ménages dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, donc l'ANRU, portant sur la coordination et l'accompagnement au relogement dans le cadre de ces opérations et améliorer la connaissance de la demande des attributions et de l'occupation du parc social. Donc la CIA fixe pour une durée de 6 ans la répartition des objectifs d'attribution répartis entre les bailleurs sociaux et définit les actions concourant à l'atteinte des objectifs. Voilà, donc la convention intercommunale, le CIA de Saint-Étienne Métropole est signée par l'État, Saint-Étienne Métropole, le département, les réservataires des logements sociaux, communes, départements, la CAF, les PAS, l'ORA, HLM, la SFHE, Action Logement, Cap Métropole. Beaucoup de monde. Les autres communes seront également invitées à la signer, en particulier celles ayant du patrimoine HLM. Cette conférence est pilotée par l'État et la métropole. Elle est l'instance du pilotage de la politique de peuplement de la métropole. Elle suit et évalue la CEA et le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et de l'information des demandeurs, le PPGDLSID, et assure la cohérence de l'ensemble de ses travaux. Le comité de suivi de la CEA fait le suivi technique et opérationnel du document cadre en appui à la CIL. Cette instance partenaire permet d'échanger plus largement sur les pratiques, les difficultés et les pistes de travail engagées ou à engager. Donc, il y a une surveillance quand même très étroite maintenant sur les attributions. Le projet de CIA sera présenté lors du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées le 19 novembre qui donnera son avis. Voilà, la CIA sera ensuite soumise au bureau au Conseil métropolitain du mois de janvier 2026. Elle prévoit également la gouvernance de la politique d'attribution de la métropole dans laquelle la ville ou la commune souhaite prendre part. La commune est réservataire, à savoir en qualité de réservataire de logements sociaux et de membre de droit des commissions d'attribution de logements sociaux. Le Conseil municipal est invité à approuver le projet convention intercommunale communale d'attribution 2026-2031 et autoriser le maire ou son représentant à signer la convention intercommunale d'attribution.
On avait débattu l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ces conventions avec les bailleurs sociaux qui nous avaient un peu contrariés. On avait le sentiment d'être un peu dépossédés de notre capacité à décider. Donc tout ça remet un petit peu d'ordre, crée de la cohérence au niveau de la gestion des logements sociaux sur le territoire, permettre d'abord d'avoir une vision plus complète et puis éviter un petit peu les arrangements dans certaines communes telles que ça pouvait exister. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que c'est un cadre qui se définit, qui est politique, bien évidemment, puisqu'on y fait intégrer des instances qui nous dépassent. Pour nous, l'important, in fine, c'est que, un, on puisse suivre nos demandeurs de logement social, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et mais également que nous puissions participer aux commissions d'attribution des logements au sein des bailleurs sociaux. Très concrètement, quand il y a un appartement ou des appartements qui se libèrent à Saint-Prié, qu'on puisse donner notre avis. Donc ça sous-entend qu'en amont, on ait connaissance de l'identité et de la situation des demandeurs, et ensuite qu'on participe au décisionnel. Ça dépend bien souvent des bailleurs. Il y en a avec qui on n'a aucun problème, comme le Toit Forésien, voire Habitat et Métropole. Et puis il y a d'autres bailleurs qui ont tendance un petit peu à nous mettre devant le fait accompli, et dire « Ah tiens, il y a eu une commission, en fait, voilà, on a décidé d'attribuer tel logement à telle personne ». Donc c'est un peu contrariant, je pense que ça va permettre un petit peu de recadrer les choses, parce que, et moi je l'avais vécu quand j'étais adjoint aux affaires sociales antérieurement, dans beaucoup de commissions, les membres de la commission ne connaissent pas forcément la situation réelle et du territoire et des demandeurs. Là, tout qu'on a, nous, en tant que commune, c'est qu'on les connaît. Et très souvent, il m'est arrivé d'être dans des commissions d'attribution de logement où les membres disaient, on va écouter la mairie de Saint-Prié, ou son représentant, hein, que ce soit le maire ou un adjoint, peu importe, parce qu'il connaît bien son territoire, et parce qu'ils connaissent bien la nature et le profil des demandeurs. Et ça me semble une évidence. Aujourd'hui, c'est une mécanique qui peut un petit peu nous échapper. Parce qu'on évoque, par exemple, les obligations de relogement d'une famille qui est expulsée. Et on l'a vu avec le Toit Forésien. On avait un problème avec une famille et on avait dit il faut qu'il soit expulsé. Le Toit Forésien nous avait dit oui, mais nous, en tant que bailleur social, si on l'expulse de chez vous, à Saint-Prié, il faut qu'on le reloge ailleurs. Donc on déplace le problème quand il y a problème. Donc voilà, il y a aussi cette mécanique à bien appréhender. C'est important quand même que nous, on puisse suivre nos demandeurs et voir jusqu'où on peut les accompagner. On les accompagne en fait jusqu'à la commission, in fine.
Et suite à ces problèmes de convention, on avait reçu tous les bailleurs sociaux avec Frédéric. Et on avait discuté avec eux, ce qui permet quand même maintenant, lorsqu'on a besoin d'un logement précis, de pouvoir leur adresser des messages ou leur téléphoner pour leur demander s'il n'y a pas à disposition un logement qui correspondrait à notre demandeur. Donc ça s'est un peu détendu, mais c'est à surveiller de très près.
On peut aussi être dans une situation d'inciter à un refus d'attribution d'un logement. Parce qu'on connaît les demandeurs, parce qu'ils sont déjà passés sur la commune, ils n'ont pas voulu tel appartement, ils ont voulu partir dans une autre commune, ils veulent revenir. Ce sont des gens qu'on connaît bien parfois, et là, on fait aussi état de cette connaissance du dossier des familles concernées. Donc des questions par rapport à cette convention ? Donc on va passer au vote si vous le voulez. Qui est contre la signature de cette convention ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, nous validons cette convention. Et je vous en remercie. Le point suivant, c'est un point final, je dirais. Enfin, je regarde Frédéric. Il aurait dû, il devrait, il est final. Bon, si avec moi, il ne le serait pas, mais ça, c'est un autre problème. C'est le point sur la convention opérationnelle avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole. Le bilan financier pour l'opération de ce qu'on a appelé l'îlot 2, qui était donc autour de l'ancien tabac et où aujourd'hui se construit le clos Marguerite. Ne confondez pas le clos Marguerite, qui est en cours de construction, avec la maison Marguerite, qui va ouvrir ses portes début 2026, un peu plus loin à côté de l'école. La commune souhaitant étudier et planifier le devenir de son centre-bourg en termes de programmation logement, le conseil municipal a approuvé par délibération 19-06-02 du 4 juin 2019 une convention d'études et de veille foncière avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole. Je dis bien 2019. À la suite des conclusions de l'étude de faisabilité menée de 2000 à 2021, les élus avaient souhaité s'engager dans un projet de création de 34 logements sur deux îlots situés autour de la place Jean-Baptiste Père, ce qu'on a appelé l'îlot 2, en cours de réalisation, et l'îlot 3 qui était autour, de, en particulier, des bâtiments de l'association paroissiale. L'actuelle municipalité ne souhaitant pas surdensifier le centre-bourg, mais réaménager de l'habitat ancien et dégradé, le projet définitivement arrêté ne porte que sur un seul îlot, avec la création d'un immeuble d'habitation de 20 logements, un peu moins en fait, et un espace commercial situé au rez-de-chaussée. Vu la délibération 190602 du 4 juin 2019, approuvant la convention d'études et de veille foncière avec l'EPORA, l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, et Saint-Étienne Métropole, vu la délibération 210902 du 7 septembre 2021, approuvant le projet de convention opérationnelle avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole, vu la délibération 240505 du 14 mai 2024, décidant de faire substituer la commune dans ses obligations d'acquérir les biens acquis auprès de l'EPORA par la société A2S IMO. C'est pas AS2, mais c'est A2S, je crois. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est simplement qu'au lieu de racheter l'intégralité à l'EPORA, l'acquéreur du foncier verse à l'EPORA le prix qu'on a convenu et nous, on prend en charge le différentiel. On va y revenir après. Vu la délibération 24-12-03 du 5 novembre 2024 et 24-12-03 du 10 décembre 2024 décidant la cession de parcelles communales à la société A2S IMO, vu le bilan financier de l'opération établie par l'EPORA, conformément aux dispositions de la convention opérationnelle signée avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole et notamment les articles 14 et 19.1, le montant de la participation due par la commune à l'EPORA est de 697 465,68 € hors taxes. Je reviendrai après. Je vous demande d'arrêter le montant de la participation inversée à l'EPORA à la somme de 697 465,68 € hors taxes, de m'autoriser à signer tout document nécessaire et de dire que la dépense sera présente, prélevée au budget. Alors, je vous rappelle l'opération, EPORA a acheté et déconstruit. On était sur une enveloppe d'environ 1,5 million. On a vendu le terrain à Madame Arnaud, à 2S IMO, pour construire cet immeuble. Et donc, il y a un reliquat. Le reliquat, il est pris en charge par la commune. Je vous rappelle que pour des raisons de sécurité financière et budgétaire, dès 2020, on a provisionné cette dépense. On ne l'a pas fait sur 2025, puisqu'on attendait les chiffres définitifs. Donc, nous devons verser à l'EPORA 697 465,68 € hors taxe. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur ce solde, antérieurement, EPORA a pris en charge 225 787 €. Là, c'est vraiment le solde réel. Donc, comme on avait provisionné moins, il y a bien sûr un reliquat, et vous allez l'avoir tout à l'heure à la modification budgétaire, pour un montant de 219 540 €. C'est ce qu'il faut qu'on rajoute aux provisions constituées, budgétairement parlant, pour couvrir le montant de 697 000 €. Hors taxe. C'est là que je suis contrarié, parce que depuis le début, sur toutes les simulations qu'on a faites année après année, y compris dans les points de situation que nous donné EPORA, on raisonnait comme ça sur des montants, et à la fin, ben, ils nous disent « oui, mais c'est hors taxe ». C'est-à-dire qu'il faut rajouter environ 140 000 € sur ce montant-là. Bon, et ça ne fait pas partie de la TVA qu'on peut récupérer ultérieurement. Donc c'est en ça que je suis un peu contrarié par rapport à EPORA. On verra dans l'avenir quelle attitude adopter vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont été vraiment en dessous de tout en termes de gestion de ce dossier. On le savait à l'avance, on nous l'avait dit. Ils ont très bien travaillé pour les acquisitions foncières, mais après, ça a été catastrophique. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, je ferai un courrier au président d'EPORA et à la directrice régionale pour leur dire ce qu'on pense de la qualité de leur service. Pour autant, on doit payer nos dettes, on est bien d'accord, puisque c'est bien une dette que nous avons vis-à-vis de l'EPORA. Donc, je vous demande d'arrêter le montant de la participation inversée à la somme de 697 465,68 € hors taxe, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires et de dire que la dépense sera prévue au budget, puisqu'on va vous proposer après un ajustement budgétaire. D'autres questions par rapport à ça? Donc c'est un dossier que l'on clôt. Vas-y, Jacques.
Oui, je pense que leur participation est à la baisse, puisqu'on ne fait pas l'îlot 3. Non?
Non, non, ils n'ont pas encaissé 800 000 de Mme Arnault, puisque on a, nous, rétrocédé une partie dans ces 800 000 euros. On a rétrocédé une partie à Mme Arnault, c'est l'atelier. Donc cet argent, on l'a encaissé, nous. Mme Arnault, pour l'achat de l'atelier et l'ancien poste de police, c'est à nous qu'elle l'a versé. Donc c'est pas à l'EPORA. Donc là, il faut le sortir, mais en même temps, ce qu'on ne met pas dans notre équilibre financier, c'est les recettes qu'on a eues à côté. Et donc, sur ce déficit global, EPORA en prend une partie à hauteur de 225 000 euros. Et que si on avait été beaucoup plus loin avec l'îlot 3, ils auraient pris une partie plus importante. Mais c'est un pourcentage du reste à charge de la commune.
Moi, ce que je regrette, c'est que sur le projet, ils ont, c'est vrai, travaillé pour libérer des habitants dans la zone. Mais le projet qu'ils avaient fait, c'était des timbres-postes sur un plan, même pas un plan de masse à l'échelle. Et l'îlot 3, je maintiens, je signe, n'était pas réalisable. Donc, tout ce qu'ils avaient pensé sur l'îlot 3, c'était du pipeau. Voilà.
Donc là, on a un jugement sur les propositions d'EPORA. Ce n'est pas le but de ce soir. Hein. Ce soir, c'est l'îlot 2. Non, non, mais c'est l'îlot 2. Il est finalisé. C'est un dossier qu'on va pouvoir refermer maintenant. On avait bien fait de prévoir des provisions. Ça a été très prudent. On aurait pu dire, à la limite, on ne provisionne pas. On est en fin de mandat, on ne paye pas, et la prochaine équipe municipale se retrouvera à payer 700 000 euros hors taxes. Donc nous, on est en capacité d'honorer cette dépense. Donc on a joué le jeu. La gestion d'EPORA, d'un point de vue architectural, urbanistique, etc., elle peut être discutée, bien évidemment. On les a suivis dans les acquisitions foncières, ils ont fait très vite. Après, la négociation sur le départ de M. Ando Santos, ça a été beaucoup plus problématique. Sur l'acquisition des licences bar, tabac, PMU par M. Neder, ça a été beaucoup plus problématique. Et enfin, les délais imposés pour la déconstruction étaient aussi très longs. Donc il a fallu qu'on s'énerve un petit peu pour qu'ils raccourcissent ces délais. Maintenant, on a un chantier qui évolue très bien et qui, normalement, devrait être livré dans les délais respectés. Donc voilà, on peut être satisfait de l'opération. Par contre, on peut être mécontent de l'attitude très administrative, j'allais dire très fonctionnaire, mais bon, on est en plein dedans, mais très administrative de l'EPORA. On a des interlocuteurs qui sont compétents dans leur petit domaine. Il n'y a pas de vue d'ensemble, il n'y a pas de cohérence d'ensemble, il n'y a pas d'approche stratégique et politique. Mais si vous discutez avec des maires d'autres communes ou d'autres collectivités, c'est un sentiment partagé. C'est une énorme, énorme structure, EPORA, puisqu'elle est régionale. Et ben alors, les partenaires, hein, on a ou l'EPORA, ou Épure, ou Cap Métropole, de toute façon, dans tous ces projets-là. Je vous rappelle qu'on avait signé avec eux, après, une convention de veille foncière. Alors, ce n'est pas du tout pour ces opérations-là, c'était dans l'hypothèse où une opération foncière ou une opportunité foncière se présentait, qui soit en capacité de préempter pour notre compte. Je pense que dans les mois qui viendront, on dénoncera cette convention. Et puis, je m'en expliquerai avec la directrice régionale et le président de l'EPORA. Pour autant, pour cette opération qui arrive à son terme, qu'on a bien menée en définitive, parce que d'un point de vue budgétaire, on avait tout prévu, et on va être en capacité d'honorer nos engagements. Avez-vous d'autres questions? Rémi Mounier.
Oui, bonsoir Rémi Mounier. J'aurais aimé savoir deux choses. Le premier, le pourcentage de participation d'EPORA, du coup, dans l'opération, si on le connaît. Et la deuxième chose, c'est vrai que comme on parle de bilan financier, ça aurait peut-être été pas mal de mettre un tableau qu'on appelle, enfin moi techniquement, emploi-ressources, où on puisse venir mettre, puisqu'effectivement on va sortir 697 000 euros, mais sur ces 697 000 euros, il y a une partie qu'on a déjà encaissée, puisqu'on a, on a revendu des choses à Mme Arnault, à Joseph Fimo. Donc ça aurait été bien aussi de pouvoir le repositionner pour mettre en avant que entre les provisions et les différents éléments qu'on a vendus, le reste à charge, il est, voilà, mais malgré tout, il n'est pas si important que la délibération qu'on va passer derrière, qui concerne plus la prise en charge sur le budget 2025.
Donc on a un tableau, bon, c'est Frédéric Billon qui a dû relancer plusieurs fois, et pourra, enfin nos interlocuteurs, parce que là aussi, c'est un gestionnaire qui dit après il faut voir la direction financière, il faut voir avec la région, etc. C'est très compliqué. On a un tableau de synthèse, hein, donc on vous le communiquera, on le rajoutera d'ailleurs au procès verbal. Bon, il n'y a rien de spécial. Alors parfois il y a des formulations, quand on vous dit don, je lis par exemple 677 000, don 20 000 pour moi, c'est intégré dans les 677 000. Pour eux, ça se rajoute. Voilà, c'est assez complexe. Donc Frédéric a dépouillé, a demandé des précisions, et ils ont reconnu quand même qu'il y avait une erreur d'un notaire à hauteur de 20 euros. Non, non, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc on vous mettra le tableau, donc on l'a regardé avec Frédéric, il n'y a pas d'anomalie, on retrouve le prix des cessions, le prix de la vente, tout ça c'est bien carré. Et je pense que la participation des PORA, elle doit être, Frédéric, je ne dis pas de bêtises, environ 25%, hein, 25% du déficit, hein, pas de l'opération, du déficit, c'est-à-dire le coût global. Moi, ce qu'ils ont encaissé, ça fait un déficit qui est supporté par la commune. Et là-dessus, ils prennent 25%. Voilà. Donc, c'était aussi un petit peu, rappelez-vous, la logique de passer par EPORA, parce qu'ils nous simplifiaient toutes les démarches administratives, les ventes chez les notaires, etc., toutes les opérations de supervision. Et puis, il y avait quand même 25% du déficit qu'on n'avait pas, nous, à payer. Bon, voilà. Donc, on vous mettra le tableau avec le procès-verbal. Hein. Corinne Mourgue.
Bonsoir, Corinne Mourgue. J'ai une question, Christian. EPORA est une structure d'État. Elle a un organe de contrôle, c'est la Cour des comptes ou...
C'est le ministère des Finances.
Ministère des Finances. Et par ailleurs, est-ce que le Saint-Étienne Métropole, enfin le Conseil Saint-Étienne Métropole a une métropolitain, a un pouvoir d'action? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas satisfait, que visiblement, il n'y a pas que nous qui fait remonter ces éléments. Donc, je comprends que tu vas faire un courrier pour dire qu'on n'est pas satisfait. Mais du coup, par exemple, est-ce que ça peut être un point à l'ordre du jour du Conseil métropolitain ou c'est pas du tout la structure qui...
Non, c'est une structure qui est régionale, alors que la métropole, elle est locale par définition. Il y a peut-être un représentant de cette métropole qui siège au Conseil d'administration des PORA, mais c'est vraiment Rhône-Alpes. Alors après, tout ce qu'on a décidé, les conventions, c'est assez complexe. Hein. On est du niveau local, au départemental, puis au régional. Et enfin, toutes ces procédures sont validées par Bercy. Donc c'est vraiment très complexe. Alors après, Métropole ne nous impose pas. Simplement, quand on passe une convention avec EPORA, Métropole est partie prenante. Mais ça pourrait être pareil avec EPUR ou avec Cap Métropole, qui sont aussi des structures intercommunales qui accompagnent les communes dans tout un ensemble de processus d'acquisition, de construction ou de projet. Donc c'est ça aussi, je dirais presque, l'intérêt de ce genre de structure. Alors, on n'est pas content du mode relationnel qu'on a connu avec eux. On a eu parfois des gens compétents et à l'écoute, et à d'autres moments des gens totalement incompétents, je pense en particulier à leur avocate. Mais l'avocate qu'on a quand même payé au niveau des honoraires, in fine. Bon. Par contre, sur l'opération en elle-même, on est dans les délais et on n'est pas avec des surcoûts. Donc, d'un point de vue budgétaire et financier, on est arrivé à ce qu'on souhaitait. Par contre, dans la dimension d'accompagnement de la collectivité, on a l'impression que qu'on est presque ignoré. Quoi. Voilà. C'est une grosse machine, c'est une très grosse machine et qui produit elle-même ses décisions, etc. Il y a des enjeux politiques, au sens politicien du terme, au sein de son conseil d'administration, bien évidemment. Autrefois, c'était Hervé Reynaud, quand il était maire de Saint-Chamond, qui était président de l'EPORA, donc jusqu'à il y a 2 ans. Maintenant, je ne sais plus qui c'est quelqu'un de ou du Lyonnais ou de la région de Roanne, il me semble. Donc voilà, aujourd'hui, c'est toujours intéressant, parce qu'il y a eu des tas de choses qu'on n'a pas dû faire. Il y a eu effectivement cette prise en charge à hauteur de 25%. C'est quand même pas neutre, même si on raisonnait sur du hors-taxe et qu'on découvre. On découvre pas, c'est qu'on a mal lu la convention. Et Au départ, c'était écrit hors taxe, hors taxe. On n'a pas dit, tiens, c'est du hors taxe. Un jour, il y aura peut-être, pourrait se poser la question de la TVA, à quel taux? Voilà. On a découvert au moment de la facture finale. Hein. Mais voilà, c'est ça que je vais exprimer dans mon mécontentement. Après, les gens, ils sont ce qu'ils sont. On a eu des interlocutrices qui étaient volontaires et déterminées. Hein. Voilà. Pour la ville, dans les monts du Lyonnais. Hein. D'autres questions par rapport à cette décision? Donc, on solde le dossier, on va payer et on sera tranquille. Donc, on va passer au vote. Qui est contre cette délibération? De toute façon, c'est la facture. Hein. On peut être contre la situation, etc. Mais c'est bien ce qu'on va devoir payer. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, on valide donc la convention opérationnelle, la fin de la convention opérationnelle avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole. Et je vous en remercie. On va attaquer la partie finance. Donc, je vais passer la parole à Michel Bizassia. Simplement pour finir, vous avez un gros document qui est le budget, actualisé, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. C'est très difficile à s'y retrouver parce qu'on prend le budget initial, les modifications, le budget final, les restes à recouvrer, etc. On a essayé de faire une petite synthèse pour bien comprendre simplement ce qu'on vous propose. On vous propose simplement d'augmenter nos budgets de fonctionnement et d'investissement.
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez l'exemple là particulier de la simplification administrative. Là où on n'avait qu'une seule feuille à présenter au conseil municipal, on en a maintenant 56. Bon, je pense que vous l'avez tous étudié très à fond, très bon. Je ne vais pas vous faire sortir une feuille et vous faire une interro, mais voilà. Non, ça devient un petit peu compliqué parce que maintenant, les documents financiers arrivent à avoir une chose très, très compliquée. Donc, en fait, comme toutes les années, on vous propose une deuxième décision modificative. On en avait déjà eu une en cours d'année pour quelques sommes. En fait, quand on fait le budget primitif au mois de mars, c'est un budget prévisionnel. Donc, effectivement, on prévoit des choses, mais on n'est pas des grands devins et on n'est pas des visionnaires non plus. Donc, en fin d'année, il faut effectivement qu'on ajuste certains postes, qu'on en diminue certains et qu'on en augmente d'autres. Parce que, comme vous le savez, chaque dépense est affectée à un compte très précis. Et que si, dans ce compte-là, on a une facture, mais qu'on n'a plus de sous, le trésorier payeur général nous renvoie la facture en disant « c'est pas possible, je ne peux pas payer ». Voilà. Donc, on a l'argent, même si on a 10 fois plus d'argent sur un autre compte à côté. Mais ce n'est pas le bon compte, donc on ne peut pas affecter la dépense à un autre compte. Alors, en fonctionnement, on vous propose des décisions modificatives. Elles doivent, comme le budget, être équilibrées hein, en dépenses et en recettes, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. On ne peut pas faire une décision modificative déséquilibrée, c'est-à-dire avoir plus de dépenses que de recettes ou l'inverse. Donc, pour le fonctionnement, on vous propose une décision modificative à hauteur de 80 617 euros, que ce soit en dépenses ou en recettes. Sur les charges à caractère général, donc c'est là où on trouve, par exemple, tout ce qui est tous les achats, tout ce qu'on peut acheter de nourriture, d'électricité, de gaz, enfin tout ce qui nous permet de nous fonctionner, on vous demande une augmentation du budget de 105 137 euros. Alors, c'est une somme globale hein, que je vous propose. Mais je ne vous ai pas détaillé tous les comptes parce que ça serait un petit peu fastidieux. Alors, cette somme peut paraître un petit peu importante, mais vous verrez, sur les charges de personnel, on a diminué par contre de 25 000 euros. Alors, pourquoi? Alors, les 105 000 n'équilibrent pas, bien sûr, les 25 000 euros, mais il faut déduire des 105 000 les 25 000 qu'on a enlevés de charges de personnel. Tout simplement parce qu'avant, on avait un service de remplacement au sein de la collectivité qui était géré par la collectivité. C'est-à-dire quand un agent, c'est essentiellement souvent pour la crèche, les écoles ou les choses comme ça, où il y a une obligation d'encadrement fixe. Et on avait un service de remplacement où on avait du personnel sur lequel on pouvait compter en cas d'absence. Ce personnel-là, on ne l'a plus parce que maintenant, on ne trouve plus personne. Et on a substitué ce service de remplacement. C'est un organisme de, si vous voulez, style intérim qui nous propose des personnes. C'est à caractère social. Et donc maintenant, on ne rémunère plus, si vous voulez, directement les agents, mais on rémunère l'organisme. Donc effectivement, ce n'est pas le même compte, donc il faut basculer d'un compte à un autre. Et puis, on a une petite dépense de 480 euros sur les autres charges de gestion courante, ce qui nous fait une somme de 80 617 euros. Pour équilibrer ce budget, on a le produit des services sur lequel on a pu rajouter 7236 euros. Et ça, c'est essentiellement la participation des parents à tous les services périscolaires, cantines, tout ça. Parce qu'en début d'année, sur les recettes, on est toujours très prudent. Et donc, on a encaissé plus que ce qu'on avait prévu. Donc, on peut inscrire cette somme en recettes. C'est la même chose sur les taxes, sur les droits de mutation. Vous savez, chaque fois qu'on vend une maison ou un terrain ou n'importe, enfin voilà, tout ce qui est immobilier sur la commune récupère une partie des droits de mutation que vous payez, enfin que les acquéreurs payent. Et on a pu rajouter 60 000 euros. Là encore, on est très prudent parce que les droits de mutation, ben, on ne sait jamais combien on va toucher, on ne sait jamais combien de ventes vont se faire sur la commune en une année. Et en plus, on a quand même une baisse assez importante. Des acquisitions foncières sur la commune, bien que ce soit une commune attractive, ben, les gens sont quand même prudents maintenant et ben, on sent bien, quand vous regardez les informations, que l'immobilier n'est pas au mieux de sa forme. Et puis, on a la dotation de solidarité rurale qu'on n'avait pas inscrit au budget primitif pour une somme de 13 381 euros parce qu'on avait des doutes à une époque, au début de la première loi de finances, on avait un peu peur que cette dotation ne nous soit plus affectée. Et donc, on a préféré ne pas l'indiquer et on a pu la remettre. Donc, on équilibre à 80 617 euros, que ce soit en dépenses ou en recettes, sur un budget primitif qui fait quand même 8 341 242. Donc les décisions modificatives en fonctionnement ne représentent même pas 1% du budget. Donc on ne peut pas dire qu'on a dérivé beaucoup, on ne peut pas dire qu'on a dépensé plus ou encaissé beaucoup plus. Enfin, encaisser plus, c'est mieux, parce que ça ressortira dans l'excédent de fonctionnement. Hein. On aimerait bien, parce que de ce côté-là, on n'a pas de souci. On l'aura, notre excédent de fonctionnement. Mais vous voyez qu'en dépenses, on a quand même été très, très, très raisonnable.
Je voudrais revenir sur cette recette à des dotations de solidarité rurale qu'on n'avait pas prévues initialement. Vous avez peut-être vu dans la presse récemment la réaction de certains maires, je pense à François Driol, le maire d'Andrézieux, qui s'est ému de la disparition de la DGF, dotation globale de fonctionnement, pour lui. Il y a 6 ou 7 communes dans la Loire qui en plus font l'objet du processus d'illico, puisqu'en fait l'État leur préempte sur les recettes fiscales certains montants. Nous, c'est 12 800 euros. Andrézieux, je crois que c'est 180 000 euros de recettes fiscales directes qu'ils n'auront pas. Alors, dans l'article, il était dit que pour la première fois dans la Loire, une commune, Andrézieux-Boutéon, n'avait plus de dotation globale de fonctionnement. Je me suis interrogé de savoir s'il ne fallait pas interpeller le progrès. Je vous rappelle qu'à Saint-Prix-en-Jarret, nous n'avons plus de dotation globale de fonctionnement depuis 2020. Et en 2020, on a même été obligé de rembourser 6 219 euros au titre d'un trop-perçu de 2019. Nous avions avant, je ne vais pas faire l'histoire, hein, 650 000 euros par an de DGF. Regardez ce que ça aurait représenté sur ce mandat si nous n'avions pas perdu. En gros, 3,5 millions que nous aurions en plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit au progrès que non, pas du tout? Ça commence. Il y a commande, et moi, je le vois à la métropole. Je commence à y avoir des maires très, très, très inquiets pour l'avenir, et pas seulement d'ailleurs, je dirais 2 mois après, pas seulement des communes, mais également la métropole. Nous, c'est une malchance qu'on a eue en 2020, mais aujourd'hui, c'est une chance parce qu'on a été en capacité de gérer dans une situation de pénurie. On a fait 100 et on s'est débrouillé 100. Et là, il y a vraiment des communes qui découvrent. Donc ça, c'est quand même une première chose. Alors, la dotation de solidarité rurale, dans la mesure où on l'a perçue, on ne peut pas dire concrètement qu'on n'a pas eu toute la DGF. Puisque ça, c'était une toute petite partie. Bon, vous voyez, c'est pas grand-chose, 13 000 euros hein, sur les 660 000 euros qu'on avait avant. Deuxième élément de cette situation catastrophique, c'est au niveau de la métropole, qui vient de se voir préempter 10 millions d'euros par l'État. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à la métropole, dans toutes les directions, on arrête tout. Ce n'est pas du budget, c'est du financement. Métropole a une grosse, grosse, grosse difficulté pour finir l'année en termes de capacité d'autofinancement. Vous savez que, comme nous, si on n'a pas un certain niveau de capacité d'autofinancement, derrière, pour les projets, les banques ne le suivent pas. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, à métropole, c'est très compliqué. Je m'en suis entretenu avec Luc François, le vice-président en mobilité, par rapport aux pistes cyclables en général. Et il m'a dit, bah, écoute Christian, conférence budgétaire pour 2026, pistes cyclables, zéro. Sur tout le territoire de la métropole, pistes cyclables, zéro en 2026. Voilà. Alors après, il y aura des ajustements. Nous, notre deuxième partie de piste cyclable, elle est budgétée, etc. Et puis surtout, en 2026, il va y avoir un nouvel exécutif métropolitain qui va se réapproprier l'ensemble de ces dossiers et définir de nouvelles priorités. Mais la situation est très, très, très inquiétante. Vraiment. Aujourd'hui, alors quand on entend dire, par exemple, que l'État veut prélever 1,5 milliard au titre de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est très bien pour les entreprises, mais c'est une contribution qui allait directement au financement des collectivités territoriales. Donc c'est 1,5 milliard que nationalement, les collectivités n'auront plus. Donc là, on est quand même dans une situation, alors moi je dis presque de façon cynique, nous on a appris à être privés d'un certain nombre de financements, bon, on s'est débrouillé autrement. Il y a des communes, franchement, je le vois avec mes collègues de petites communes rurales, qui se disent, bon, on ne sait pas comment ça va se passer l'an prochain pour faire les budgets. Voilà, c'est une réalité. Donc maintenant, on va vous parler de l'ajustement sur les investissements.
Voilà, donc on a fait exactement la même démarche pour l'investissement. Bon, déjà, ben, on a mis en dépenses d'investissement ben, les 219 540 euros dont on vient de vous parler, qu'on doit verser à Epora. On a également Alors, je vous parle d'abord des plus. On a également la vidéoprotection. On fait la troisième phase. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'installation de la vidéoprotection, caméra, centre de contrôle et tout. On l'avait décidé en trois phases. Donc la dernière phase se fait donc cette année en 2025. Et on l'avait pas programmé en début d'année parce que justement on restait prudent et on se disait que si jamais ben, ça ne passait pas en 2025, on aurait éventuellement reporté sur début 2026. Mais ça a été possible sur 2025. Et on a budgété 213 677 euros pour ça. Les subventions d'équipement, eh ben, ce sont ce qu'on appelle les subventions d'équipement, c'est par exemple tous les travaux qu'on fait pour le ciel. C'est-à-dire, par exemple, là, on a deux mâts qu'on n'avait pas prévus en début d'année. C'est le Candela vers la rue Ambroise-Croizat, là où on va faire des places de parking. On est obligé de déplacer un candélabre. Et puis un mât pour le stade, pour les travaux du stade Camille de Roche-Taillé. Donc là, on en a pour 6 686 euros. On a les travaux du complexe sportif qui ont commencé pour 58 081 euros et un remboursement du capital de l'emprunt. On est obligé d'ajuster une somme de 4 420 euros parce que je pense qu'on doit avoir quelques emprunts variables et que le taux a dû légèrement remonter. Donc, on a légèrement plus à rembourser. Voilà. Et on a par contre enlevé pour 65 000 euros la maîtrise d'œuvre de l'isolation thermique de Georges Sand pour l'instant, parce que effectivement, on se pose des questions sur Georges Sand en raison des baisses des effectifs. Et on préfère attendre un peu de voir comment ça évolue avant de voir et quels travaux on va pouvoir effectuer avant de faire l'étude thermique. Et puis de toute façon, on a pallié un petit peu au problème de chauffage, puisqu'on a installé dans plusieurs classes, et on va certainement le faire dans toutes, des climatiseurs double flux, c'est-à-dire qui permettront de rafraîchir en été et de réchauffer un petit peu plus en hiver, parce qu'on a effectivement un problème de chaudière. Enfin, c'est un système de, je ne dis pas de bêtises, de circulation par le sol qui est complètement embourbé et qui ne fonctionne plus. Donc voilà, on a un petit peu de soucis. Et puis la conception en elle-même de l'église Georges Sand, on ne peut pas dire que c'était une réussite architecturale, mais ce n'est pas une réussite pratique. Parce qu'il y a des verrières partout, il n'y a que des verres. Donc, autant vous dire que l'hiver, on a froid et l'été, on brûle de chaud. Voilà. Donc, tout ça, toutes ces dépenses-là, c'est pour 529 404 euros. Et qu'on a équilibré comment ? Eh bien, tout simplement, avec une première chose, c'est pour la vidéo, pour la troisième phase de la vidéoprotection, on a une subvention du Conseil régional pour 81 620 euros. Comme on a eu déjà pour les deux, on a eu des subventions aussi pour les deux premières phases. On a la vente de Jean Massé. Non, moi j'ai Jean Massé, non. Ah, c'est la salle de l'atelier et le poste de police, donc ce que nous a versé Madame Arnaud pour 288 284 euros. Et puis on va demander un emprunt supplémentaire de 159 500 euros. Donc, on équilibre bien à 529 404 euros pour la section d'investissement. Et sur le budget primitif qui était de 7 881 838 euros, ces décisions modificatives représentent 6,70%. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... Là, on a eu des impondérables comme la TVA d'Epora, comme l'EMA qu'il a fallu changer, qui n'était pas forcément prévu au départ, et puis le départ de notre grosse opération du stade Camille de Rochetaillée, qui a avancé un peu plus vite que prévu et qui, du coup, il faut payer les factures puisque les gens ont fait les travaux. Et donc, on est obligé de mettre un petit peu plus d'argent sur 2025. Voilà, donc je vais vous demander d'approuver ces décisions.
Sur Camille de Rochetaillée, donc c'est un dossier qui avance très bien. C'est une très belle réalisation, si vous avez l'occasion d'aller vous y promener. Les retours qu'on a sont remarquables, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont bien connu les anciennes structures et qui reviennent et qui disent « mais vous faites un truc de fou ». Avec Rémi, on était en soirée avec le district, ils sont conquis, on va dire. Ils ont même des sollicitations à formuler auprès de nous parce qu'ils voudraient bien pouvoir, au titre des formations du district, bénéficier de la structure. Donc ça avance bien. Bon, les surcoûts ont été intégrés, voilà. Et je crois qu'on aura vraiment une très belle réalisation. Je ne suis pas certain qu'on puisse inaugurer avant le 15 mars, mais ce n'est pas très grave. Sachez aussi que dans les acquisitions, là, qu'on vous passe dans le budget, il y aura l'acquisition d'un deuxième minibus. Je vous rappelle qu'on l'avait prévu en juin, et puis l'opportunité nous est passée sous le nez. Donc là, on a vu avec l'UGAP, je ne sais pas si vous savez qui est l'UGAP, c'est une centrale d'achat destiné aux collectivités, où on a des prix très très intéressants. Et puis, on a aussi prévu le remplacement en urgence de la chaudière de la Villa Saint-Michel. Vous avez deux chaudières vieilles. Il y en a une qui a lâché, la deuxième est en train de lâcher. Donc, on va remplacer. 40 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi du pratico-pratique. Là, on équilibre. Alors, après, je pense que la sortie sera moins inquiétante, in fine, que le budget qu'on vous présente, parce qu'il y a aussi des recettes qu'on n'attendait pas. Je ne veux pas en parler, mais j'ai eu des contacts avec la région qui m'ont dit sur Camille de Rochetaillée, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quelque chose. Voilà. On a déjà eu 170 000 euros, je vous rappelle, du département. Et on aura quelque chose de la région sur ce projet-là aussi. On ne l'a pas mis. On ne l'a pas mis, puisque nous, on ne met les choses d'un point de vue budgétaire, n'est-ce pas, Jacques, que quand on en est certain. On est certain, on a une notification, c'est une recette. Tant que c'est dans l'intention, etc. C'est jamais avec tout ce qui se passe, peut-être que la région va dire, écoutez, les subventions, on arrête tout. Donc là, non, j'ai quand même un engagement moral à un très haut niveau et je pense qu'on aura une belle surprise sur ce projet. Voilà. Donc, qui est contre cet ajustement budgétaire, ça serait difficile d'être contre. Qui s'abstient, qui est pour. Donc, à l'unanimité, nous validons la modification budgétaire, ce qui ne veut pas dire qu'au conseil du mois de décembre, on ne sera pas, peut-être, obligé de vous faire encore une autre modification. On verra bien comment les choses vont évoluer d'ici là. Oui, on passera les travaux en urgence. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, on vous demandera de valider les travaux en urgence pour le début de l'année 2026. Sur la règle qui est collective, la commune peut engager jusqu'à 25% des dépenses de l'année précédente au titre des dépenses d'urgence sur le premier trimestre. Voilà. On verra, on a déjà une liste assez conséquente. Le point suivant, c'est l'octroi d'une subvention à l'association Conférence Saint-Vincent de Paul. Je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 950 euros à l'association Conférence Saint-Vincent de Paul pour l'achat de matériel compte tenu de leur installation à la Villa Saint-Michel pour assurer leurs activités de distribution de denrées alimentaires à leurs bénéficiaires. Saint-Vincent-de-Paul, c'est une association qui est historiquement installée sur la commune, mais qui couvre des populations de Villars, Saint-Étienne-Nord et Saint-Priest-en-Jarret, qui a été installée très longtemps rue Albert-Raymond. Et quand on a vendu Albert-Raymond, ils sont venus s'installer dans les locaux de l'association paroissiale. Depuis un peu plus d'un an maintenant, avec l'association paroissiale, on était en négociation parce qu'ils souhaitaient récupérer les locaux à des usages propres. Simplement, on ne savait pas comment reloger Saint-Vincent-de-Paul. On avait des problématiques aussi avec les associations accueillies à la Villa Saint-Michel. Donc, on s'est organisé, les associations ont joué le jeu. On a redistribué et redéployé les espaces. Et on est en capacité d'accueillir Saint-Vincent-de-Paul à la Villa Saint-Michel. Donc, on a formalisé une convention avec eux. Seulement, pour je dirais, stocker l'ensemble de leurs denrées, puisqu'ils sont livrés, hein, ils distribuent un mardi sur deux pour les produits périssables. Mais ils ont aussi des stocks de conserves, de produits pour les enfants, des couches, du lait en poudre, etc. Ils avaient besoin de structures de stockage, parce que nous, on n'en avait pas à la villa. Donc on leur a dit, ils ont eu une opportunité sur le Bon Coin, il y avait des armoires et des demi-armoires, on leur a dit, allez-y, achetez-les, et on passera une convention, une subvention pour couvrir cette dépense qu'ils ne pouvaient pas honorer. Donc il y en a pour 950 euros, je vous propose qu'on leur octroie les 950 euros. Ils sont installés actuellement au rez-de-chaussée de la villa. Les armoires sont dans la coursive. Et normalement, la distribution du mardi matin doit se faire dans la salle principale de la villa, au rez-de-chaussée. On les voit demain, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, tout le sous-sol a été... Une partie du sous-sol a été nettoyée et réagencée. On a une salle et on a l'ancienne cuisine qui était inopérationnelle, qui le devient. Donc on les voit demain pour leur demander s'ils veulent rester encore au rez-de-chaussée pour distribuer. Mais pour eux, l'obligation, c'est que le soir, ils doivent nettoyer tout pour restituer la villa en état de fonctionnement pour les locations, pour les associations, pour les événements, ou s'ils veulent s'installer de façon plus permanente au sous-sol. Donc voilà, sachez-le, on les revoit demain. Ils sont ravis qu'on ait pu travailler avec eux, et je remercie aussi les associations qui ont joué le jeu, parce qu'ils étaient vraiment très, très, très inquiets. Alors après, comme je leur ai dit, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est un moindre mal. Ils doivent distribuer à partir du 18 novembre. Je leur ai dit que physiquement, je serai là avec la police municipale pour, gérer l'ensemble de la situation. Pour les bénévoles, s'approprier l'espace et les bénéficiaires, arriver à les orienter et à les encadrer. Puis surtout aussi gérer les problèmes d'accès en véhicule, parce que c'est une zone qui, normalement, ne reçoit pas de véhicules. Donc voilà, on va mettre tout ça en place. Là aussi, je suis content parce que c'est un dossier, c'est une épine qu'on avait vraiment depuis un an avec la paroisse sur ce dossier. Il est résolu, la paroisse est satisfaite, Saint-Vincent-de-Paul aussi. On leur donne la subvention qui couvre l'achat des armoires et puis on va voir comment ça démarre. Voilà. Donc, qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc l'octroi de la subvention est accordé à Saint-Vincent-de-Paul et je vous remercie pour eux. Le point suivant, c'est un point qui est annuel. Vous savez que le COS, Comité des œuvres sociales, bénéficie chaque année d'une subvention de la mairie pour son fonctionnement, mais on leur accorde une subvention complémentaire au titre des médailles du travail et des départs en retraite qu'ils financent. Alors historiquement, il y a très longtemps, à l'époque de M. Chaboissier, c'était la mairie qui payait directement sur ses budgets les départs en retraite et les médailles du travail. Il y a eu des contrôles qui ont dit « ça n'est pas normal ». Donc, la solution qui a été trouvée, c'est le COS qui prend en charge et qui paye les forfaits, hein, pour les médailles du travail, vous savez que c'est tarifé, et pour les départs en retraite, et la mairie rembourse chaque année au COS ce que ça leur coûte. Donc là, ça doit représenter 8 médailles et 2 départs en retraite. Des questions par rapport à ça? Chaque année, on le fait, hein, donc ce n'est pas du tout exceptionnel. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on va pouvoir offrir à nos médaillés leur petite contribution. Et je vous en remercie. C'est après encore Mireille qui va prendre la parole. Voilà.
Donc, l'école Jean Massé a été démolie. À la place, il y a 2 immeubles qui vont être construits par ANVEFA, par Habitat et Métropole. Un immeuble locatif de 21 logements et un immeuble en accession de 23 logements. Les garanties d'emprunt que l'on va passer pour Habitat et Métropole en prêt de droit commun concernent l'immeuble locatif de 21 logements. On passe 2 délibérations, 2 garanties d'emprunt, puisque les financements sont différents. Alors, il y a tout d'abord le prêt de droit commun. C'est 10 logements en plus, 10 logements en location sociale habituelle. Donc, Monsieur le maire expose la présente garantie et sollicité dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2305 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 176672 en annexe signé entre Habitat et Métropole, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations. Je vous demande de bien vouloir délibérer. Article 1, l'Assemblée délibérante de commune de Saint-Priest-en-Jarret accorde sa garantie à hauteur de 66% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total d'1 614 819 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 176672 constitué de deux lignes du prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 065 780,54 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Donc ça, c'est pour 10 logements plus garantie prêt droit commun. Et puis, il y a une autre garantie d'emprunt. Donc, c'est un financement différent assuré par l'ANRU. C'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc, c'est cofinancé par l'État, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux, toujours dans le but de créer de la mixité sociale pour l'habitat, le relogement des locataires touchés par les démolitions, les quartiers dégradés, concentrant un grand nombre de logements indignes. Et là, il s'agit de 11 logements en PLAI, donc pour les ressources les plus modérées. Donc là, je vais vous lire simplement ce qui... c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que là, c'est le contrat de prêt numéro 177414 en annexe, signé entre Habitat et Métropole, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations. Je vous demande de bien vouloir délibérer. Article 1, l'Assemblée délibérante de commune de Saint-Priest-en-Jarret accorde sa garantie à hauteur de 66% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de, cette fois, 1 666 837 euros, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 177414, constitué de deux lignes du prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 112 042 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Voilà. Et le reste est identique.
Donc ça, c'est traditionnel. Vous savez que tous nos projets immobiliers avec les bailleurs sociaux sont cautionnés, on va dire, par la mairie dans le temps. Alors on pourrait dire, mais c'est dangereux. Pardon, c'est dangereux parce que si le bailleur social est défaillant, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, c'est pas 100%, c'est 66%. Et s'il est défaillant, il y a le bien immobilier qui reste quand même. Donc voilà, c'est une mécanique qui existe, je dirais, de façon historique. Vous avez en fin d'année, au bilan, l'ensemble des garanties en cours, qui année après année, bien sûr, se réduisent, hein, c'est comme un tableau de remboursement d'emprunt. On apporte notre garantie aux bailleurs sociaux qui bâtissent un projet immobilier sur notre territoire. Et donc, quel que soit le bailleur social. Voilà. Donc, la garantie qu'on a, c'est que je ne connais pas de bailleurs sociaux qui soient défaillants, parce qu'en plus, il y a les garanties et l'accompagnement de l'État, et de toute façon, il y a le bien immobilier en lui-même qui est une garantie suffisante en cas de défaillance.
une chose importante, c'est qu'on a le droit à 20% des logements construits, donc en plus, hein, pas l'en rue, on a le droit à 20% de réservation sur ces logements neufs pour une première location. Lorsque le logement sera rendu au bailleur, ça tombera dans le flux normal, hors normal des logements.
Alors je vous rappelle hein, les deux projets. Il y en a un, c'est en accession aidée, donc pour les primo-accédants, on va dire, dans des conditions très intéressantes, y compris de TVA, de taxes foncières, etc. Et puis le second, ben, ça sera un immeuble en location pure. Voilà. À peu près sur moitié-moitié hein, au niveau des appartements, à peu près. Hein. Aider. C'est ça, à peu près pareil. Voilà. Donc voilà, c'est là aussi, ça va nous apporter un peu plus de population. On est au-dessus des 20%, seuil fatidique sur la commune, puisque on doit être à 20,5. Avec ces logements-là, on va peut-être passer le seuil des 21. Je vous rappelle que la loi, normalement, c'est 25. Mais bon, il y a une tolérance à 20. Donc, dans ce cadre-là aussi, nous, on remplit nos conditions. Donc, on n'aura pas de pénalité ou d'injonction de l'État sur les seuils de logements sociaux. Et puis, c'est quand même des bâtiments, aujourd'hui, dans leur conception, qui sont de belle qualité. Ça fera des jeunes gens. Alors, pour l'accession aidée, oui. Pour le logement social traditionnel, c'est pas du tout mécanique, hein. On verra bien. Après, est-ce que ces jeunes arrivants feront des enfants pour nos écoles? Si on regarde le Quartz à côté du Grain d'Orge, le Quartz, c'est 25 logements avec des couples qui sont arrivés, on les a rencontrés et on n'a pas eu de naissance qui sont venus alimenter nos enfants, notre école à Jean Massé. Donc, il ne faut pas croire que ce soit aussi mécanique que ça aujourd'hui. Michel l'évoquait tout à l'heure, on peut faire une parenthèse. On est alerté, oui, par l'Éducation nationale sur les effectifs. Je ne sais plus dans quelle école c'est. On a, alors, c'est pas compliqué. On regarde les CM2 qui vont partir l'an prochain et les gamins de 3 ans qui vont rentrer en petite section. Je crois qu'on a 39 départs pour 12 ou 13 arrivés. Donc voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de Georges Sand avec de l'interrogation. Oui, bien sûr, il faut chauffer l'hiver et puis il faut surtout rafraîchir l'été. Donc on a apporté ces solutions temporaires avec des gros blocs clim. Mais il faut qu'on s'interroge là, très sérieusement. Parce qu'il y a la mécanique de dénatalité qui est nationale, et c'est amplifié par un deuxième phénomène, c'est les tarifs de l'immobilier sur la commune qui font que c'est très difficile pour des jeunes couples de venir s'installer. Nous, on le voit quand on prépare des mariages avec des jeunes couples, ils nous disent on aimerait bien rester, mais on ne peut pas. Donc c'est une réalité. Il va bien falloir aussi qu'on soit en capacité, hein, gouverner, c'est prévoir, donc c'est être capable de se projeter dans l'avenir, de s'interroger sur ces mécaniques-là. On a aujourd'hui une population sur la commune qui vieillit, plutôt bien dans le cadre municipal, mais ce n'est pas du tout compensé, si vous voulez, par une arrivée des jeunes couples, sans doute. C'est plutôt des personnes entre 45 et 50 ans qui arrivent sur la commune, mais surtout une baisse très importante des effectifs scolaires. Dans nos écoles et première année, dans la petite enfance, pour la première fois à la crèche, on n'arrive pas à remplir. C'est la première fois que ça se produit. Là aussi, il y a un autre phénomène, c'est les micro-crèches qui s'installent, donc qui nous préemptent potentiellement des enfants, dans des conditions tarifaires qu'on pourrait discuter avec la PMI et avec la CAF. Mais là aussi, c'est pour la première fois, parce que nous, nos agents qui sont des permanents, ils sont là, il faut bien qu'on les rémunère, même s'il y a moins d'enfants. Et il y a le phénomène, on l'observe en particulier, les mercredis et les vendredis. Alors soit c'est le télétravail, soit c'est des gens, parce que ça coûte cher, quand même, de faire garder les enfants qui ont recours à la famille ou aux grands-parents. Mais c'est la première fois. Avant, on avait toujours des listes d'attente. Et là, pour la première fois, on dit, tiens, il y a des journées où alors les gens amenaient les enfants dès 7h30 le matin. Maintenant, ils ne les amènent plus qu'à partir de 9h. Voilà. Ces mécaniques-là, aujourd'hui, qu'on constate, il faudra être en capacité de s'interroger pour demain. Donc, pour les deux, je dirais, garanties d'emprunt auprès d'Habiter Métropole, qui est contre? Oui? Oui, on va les voter. Ben alors, on va les voter séparément. Donc, le premier. Attends. Alors, le premier, c'est le prêt de droit commun. Donc, à hauteur de 1 065 780,54 €. Qui est contre? Qui s'abstient? qui est pour. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Tu t'abstiens ? Ah bon ? Et je vous en remercie. Et le second prêt, qui est le prêt, cette fois-ci, dans le cadre de l'ANRU, pour un montant de 1 112 euros 42. Toi, je l'ai bien dit. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. On va finir. Cette fois-ci, il n'y a pas de, pour une fois, d'ajustement des effectifs, mais ça concerne quand même nos personnels. C'est un compte-rendu sur le rapport social unique, donc sur les données en termes de gestion des ressources humaines de 2024. Ce rapport a été présenté à l'occasion du comité social et technique de septembre. Donc le rapport social unique RSU, entré en application depuis le 1er janvier 2021, est une enquête en matière de ressources humaines définie par la Direction générale des collectivités territoriales qui remplace le bilan social. Il doit être présenté au comité social territorial, ce qui est fait, puis communiqué à l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire au Conseil. Le RSU s'articule autour de 10 thématiques, l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, l'action et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Il permet d'obtenir une photographie, c'est important, hein, une photographie à un instant précis de la collectivité et constitue un outil de dialogue social et de gestion des RH dans les collectivités. Je dis que c'est important parce que ce n'est pas dynamique, c'est une photo à un instant T, la situation au 31 décembre. On n'a pas fourni l'évolution dans le temps, par exemple. Les différentes données sociales permettent d'analyser les caractéristiques des emplois et la situation des agents, recrutement, avancement de grade, promotion interne, rémunération, la situation comparée des femmes et des hommes, la mise en œuvre des mesures pour l'insertion professionnelle, les personnes en situation de handicap et la formation. Donc vous avez eu la synthèse du RSU pour l'année 2024. C'est une synthèse, hein. Le document initial, il fait combien de pages, Frédéric ? Des dizaines, voire des centaines. On est d'accord. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, et notamment les articles L231.1 à L232.1, vu l'avis émis par le comité social territorial en date du 29 septembre 2025, je vous demande de prendre acte du rapport social unique sur les données 2024. Il n'y a pas de vote. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Le premier, c'est qu'au 31 décembre 2024, nous avions 149 agents employés par la collectivité. C'est le nombre physique d'agents. Par contre, ça représente 115,8 agents en équivalent temps plein rémunéré. Ça veut dire que là aussi, depuis 2020, la politique qu'on a menée de diminution, malgré tout, des effectifs, a joué. Ça, c'est quand même important. Le second élément, c'est que les charges de personnel en 2024, fin 2024, ont représenté 66% des dépenses de fonctionnement. 66%. Je vous rappelle qu'une commune comme la nôtre, si on raisonne en termes statistiques, on devrait être au maximum à 55%. Le budget de fonctionnement, c'est 8 711 467 euros en 2024 et les charges de personnel, 5 750 000 841 euros. Donc vous voyez que notre marge de manœuvre, quand il y a un dispositif social, je pense par exemple à l'obligation que l'État a fait aux collectivités de financer à hauteur de combien ? 4-5% les caisses de retraite, chaque année sur 4 ans, moi j'ai calculé, ça va nous faire une augmentation sur 4 ans de 480 000 euros, mécaniquement, charge employeur, sans parler de ce qui peut arriver à côté. C'est une réalité, hein. Ça sera au budget. Puis j'avais noté aussi, donc sur l'absentéisme, qui est un élément important, en moyenne, nous avons 14,4 jours d'absence pour tout motif médical pour les fonctionnaires et 2,9 jours d'absence pour les contractuels. Conclusion, il vaut mieux des contractuels que des fonctionnaires, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. C'était pour conclure sur une note un petit peu humoristique. Donc voilà, donc là aussi, sur les absences en général, on a une stabilisation. On a un personnel qui est très, très impliqué, hein, vous le savez, hein, vous les connaissez aussi bien que moi. Après, tout le reste, ce sont des éléments sur les répartitions des rémunérations par catégorie A, B ou C, par statut fonctionnaire, vacataire, contractuel, par homme, femme. Enfin, voilà, c'est intéressant en soi. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir régulièrement une continuité sur plusieurs années pour voir les tendances. Bon, aujourd'hui, ce document qui sort de la machine, je dirais, hein, ne nous permet pas, où il faudrait que nos collaboratrices fassent un deuxième rapport en intégrant les paramètres des années précédentes. Et c'est vraiment inenvisageable aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on recrute, on a toujours un agent manquant au service comptabilité depuis plusieurs mois. Voilà, donc sur ce rapport. Vous avez des questions sur le rapport social unique? Donc il y en a beaucoup parmi vous qui sont au CST. Corinne Mourgue.
Oui, Corinne Mourgue. En regardant, tu viens de dire un truc qui m'a fait penser à quelque chose, j'ai oublié. Peu importe, je regardais deux particularités quand même. La pyramide des âges qui est défavorable, je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, mais globalement, il manque. Voilà, c'est ça qui... Je fais le lien dans ma tête, pardon. Difficulté de recrutement et pyramide des âges qui vieillit, c'est pas super top, quoi. Donc, oui, l'attractivité reste une problématique qu'on avait déjà évoquée depuis un moment. Et puis, j'ai été interpellée par les accidents du travail. J'ai vu qu'il y en avait eu 7 en 2024, mais c'est vrai qu'il faudrait voir sur plusieurs années pour voir si c'est une année particulière, s'il y a eu quelque chose de particulier cette année. Moi, ça me paraît beaucoup, mais je ne sais pas le comparer, donc c'est difficile. C'est une intuition plus qu'une réalité.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la diversité des métiers qu'on a induit évidemment des accidents du travail qui ne sont pas comparables. Quand on a un agent des espaces verts qui se retrouve coincé sous un engin ou qui se taille la jambe avec une tronçonneuse, c'est pas pareil qu'une ATSEM qui se retrouve bloquée en manipulant un enfant. Voilà, ça fait partie des accidents du travail. Mais c'est aussi, je dirais, les spécificités d'une mairie quand on a une multitude d'emplois différents. Ça, c'est une première chose. Quant à la pyramide des âges, elle est réelle. Ça veut dire au moins qu'on a des gens qui restent fidèles à la mairie. Le problème que ça pose, il est double. D'une part, on a des personnels très qualifiés, hyper qualifiés, qui connaissent très bien notre territoire et qui s'en vont. Donc déjà, c'est difficile de les remplacer, même en anticipant et même en faisant monter en puissance des collaborateurs directs. Et le deuxième élément, mais ça, c'est pas spécifique à la mairie, c'est que quand on recrute, on n'est pas certain que les personnes recrutées vont rester. Parfois, sur des petits éléments qui nous échappent. Moi, j'ai déjà à l'esprit une personne qu'on avait en CDD. Donc après, on le met en stage. Ça veut dire que cette personne a vocation à devenir titulaire et qui, au bout de quelques mois, dit non, je m'en vais. Je m'ennuie avec mes collègues, je ne m'entends pas. Voilà, je m'en vais. Voilà. Donc, alors qu'avant, quand même, accéder au statut de fonctionnaire, c'était vraiment recherché. Donc tout ça, mais c'est pas nouveau. Quand on discute avec des entreprises ou des commerçants ou des artisans, ils ont le même problème avec leur personnel. Les plus jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus volatiles, exigeants, formule beaucoup d'attentes, à quoi j'ai droit avant de savoir ce qu'ils doivent faire, les rémunérations bien évidemment, on a cette problématique, nous, mais bon, sur certains services où on a des gens qui nous disent, ben voilà, j'ai tel salaire, si j'ai pas 200 euros de plus, je m'en vais parce qu'on m'a proposé 200 euros de plus ailleurs. Hein? Bon, voilà, c'est une réalité aussi qui nous amène à nous interroger sur l'intégration et la capacité de cette personne à être fidèle à son emploi et à son investissement dans ce qu'on lui demande. Alors, ce sont des gens compétents, je ne remets pas en cause des compétences, mais il y a cette dimension d'incertitude sur l'avenir. Voilà. Et on continue alors à ne pas remplacer un poste pour poste. Quand on a un départ, c'est un demi-poste qu'on redéploie, ou un autre demi-poste qu'on met dans un autre service. On a réduit nominativement et quantitativement nos agents. On a des départs là qui s'annoncent. On a eu notre menuisier, Thierry Chapuis, qui est parti. Ben, on avait deux menuisiers. Moi, quand je suis arrivé, on n'en a plus qu'un. On a Gilles Ayel, le responsable des espaces verts, qui s'en va. Comment on va faire? On va faire, ce n'est pas la question. Mais on n'aura pas, je dirais, la tranquillité de gestion qu'on avait avec nos personnels il y a 8 ou 10 ans. C'est fini, ça. On leur demande beaucoup, beaucoup de polyvalence, beaucoup de réactivité. Mais après, bon, il faut aussi... Il y a le déneigement. Avant, sur les périodes hivernales, on avait des astreintes de 4, des équipes de 4 agents pour le déneigement, pour les périodes de froid. Donc, on avait 4 équipes de 4, 16 personnes. Aujourd'hui, on a 3 équipes de 2. Non, on n'a plus de neige. Mais le jour où il y a de la neige, qui est-ce qui va téléphoner au maire qui habite juste à côté et qui va dire « Monsieur le maire, tu ne peux pas filer un coup de balai devant chez moi ?» Non, non, mais dès qu'il y a un flocon de neige, ça sonne la mairie. Hein. C'est bon, bien sûr qu'il n'y a plus les grandes périodes hivernales, je suis d'accord, et heureusement. D'ailleurs, vous avez tous vos pneus neige, j'espère, depuis le 1er novembre. Non, mais sérieusement, les gens, tout de suite, c'est il y a de la neige, il faut déneiger, même si c'est un ou deux jours. Et nous, le problème, ce n'est pas la durée, parce que les équipes, quand elles étaient constituées, il y en a qui attaquaient le déneigement à 3 heures du matin jusqu'à 23 heures. Donc, il y avait au moins deux équipes qui se remplaçaient. Ben, aujourd'hui, avec trois équipes de trois, je ne sais pas comment je ferais. Voilà. Bon, ben, écoutez, il me reste à vous remercier. Le prochain conseil, ça sera au mois de décembre. Et puis, bon retour chez vous. Oui, Claude. Alors, oui, Claude a une communication à vous faire, une proposition, une invitation. C'est passionnant, hein, cette usine de traitement. On n'imagine pas ce que c'est. Franchement, il faut l'avoir vu pour mieux comprendre. Et tous ceux qui l'ont vu, en rentrant chez eux, ont dit « Ok, j'ai compris, je vais faire du tri sélectif maintenant, chez moi, dans ma poubelle. » Franchement, non, non, mais on n'imagine pas. On met la poubelle jaune et puis après, on dit « Bon, ça part. » C'est passionnant, même vraiment passionnant. Hein. Ouais, ben ça, ça... Vous savez qu'on a installé des collecteurs de carton. Il faut les plier. Les mettre dedans. On a de plus en plus de gens qui déposent des cartons à côté.
Ah. D'accord. Oui. Je voulais vous dire aussi que le 25 novembre à 9h, c'est la Sainte-Catherine. Oui. Et alors, on a deux classes de Jules Verne qui vont planter des arbres dans l'arboretum. Donc, si vous êtes disponible, eh bien, venez. On avait fait un concours avec Saint-Étienne Métropole. Ce concours, on a été lauréat et on a récupéré une somme coquette, ce qui nous permet de planter un peu plus d'arbres cette année et donc d'intéresser deux classes. Et ces deux classes, ces élèves, l'arbre portera le nom de l'élève qui l'a planté comme traditionnellement. Voilà. Donc, c'est le 25 novembre à 9h sur place.
Cet arboretum qu'on a commencé il y a maintenant 2 ans, ça va être la troisième année au Pressagnol, on peut passer sur une autre dimension, on peut appeler ça aujourd'hui un parc paysager urbain. Parce qu'il y a des arbres, il va y avoir des zones de plantes aromatiques avec l'école de la deuxième chance, un potager avec le campus de Montravel qui va également s'engager à reprendre les chemins et le balisage. On va installer, n'est-ce pas Jacques, autour de la source, un projet, un puits et une zone de détente et de repos, je pense qu'à la fin, avec les partenariats, une fois de plus, qu'on a su créer, et peut-être d'autres à voir, puisqu'on est sollicité là aussi, on aura un beau résultat et qui donnera quelque chose de très bien, et puis surtout, qui finalisera le devenir de ce Pressagnol en parc paysager urbain et qui bloquera toute tentative ultérieure d'urbaniser. Merci à vous.